Alors effectivement, l'hypnose en tant qu'état modifié de conscience peut permettre un certain nombre de choses. Probablement que la situation la plus incongrue dans laquelle j'étais placé en pratiquant l'hypnose en tant que clinicien a été à un moment donné, et ça m'est arrivé deux ou trois fois dans ma pratique, de devoir pratiquer un exorcisme chez un patient. Je m'explique. À l'hôpital, on peut faire beaucoup de choses. Surtout qu'en plus, mon box est au-dessus des urgences. Donc si jamais il se passe un truc, j'ai qu'à crier très fort et tout de suite j'ai l'équipe qui est en bas qui vient chercher le patient. Ça apporte une liberté tout à fait fondamentale. Expérience, je vais vous parler de la première fois où ça s'est passé. En fait, c'était une patiente qui était venue me voir. Elle était une patiente qui était amputée, avant-bras, qui avait des membres fantômes, avec un membre fantôme, avec des douleurs du membre fantôme assez importantes. Malgré tout, ce n'était pas pour ça qu'elle venait en partie consulter, c'est parce que donc elle avait une histoire à la Zola, avec des événements de vie qui négatifs, qui s'enchaînaient, etc. Et à un moment donné, au premier entretien, elle me dit, mais de toute façon, je suis possédée par le démon. De ce que j'avais vu de la personne n'était pas psychotique, elle n'avait pas de troubles dissociatifs, elle était, on va dire, no normalo-névrotique, dans notre langage à nous, c'est-à-dire comme vous et moi, a priori. Elle n'était pas du tout dans un processus psychotique, mais effectivement, amenait ça avec conviction. Elle n'était pas non plus d'une origine culturelle qui me permette de supposer qu'il y avait quelque chose de l'ordre d'un environnement familial ou de naissance, ou enfin quelque chose qui, à un moment donné, vienne influencer cette croyance-là. Donc j'étais assez surpris par le fait qu'elle me parle de possession, et donc je lui demande comment est-ce qu'elle comprend, elle, cette possession-là, et en quoi consiste cette possession. Et en fait, elle me dit, mais de toute façon, vu tout ce qui m'est arrivé depuis que je suis petite, c'est la seule explication possible. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte qu'il y a quelques semaines, ça allait un peu mieux pour moi parce qu'elle avait retrouvé un nouveau travail, etc. Et donc, elle se sentait un peu plus sereine. Et elle me dit, et là, le démon m'a repossédée. Et je lui demande en fait à quoi c'était dû. Et elle me dit, ben, j'ai commencé à avoir des cafards dans mon appartement. Et les cafards étaient pour elle le signe du démon qui revenait la posséder et ce qui l'avait emmenée à déménager. Mais je me dis, mais ça vous est déjà arrivé, elle avait déménagé déjà 12 fois dans sa vie pour cette raison-là, c'est-à-dire parce que les cafards étaient revenus la posséder. Face à une croyance comme celle-ci, on peut évidemment, avec les patients, commencer à rationaliser, intellectualiser, on peut également leur expliquer que les choses ne sont pas possibles, ça ne sert pas à grand-chose, c'est une croyance qui est là. Bon. Et donc du coup, puisqu'elle était possédée, je lui dis, bah, écoutez, on va faire un exercice, je ne sais pas ce que vous allez en comprendre, mais en tout cas, on va faire un exercice ensemble par rapport à cette question du démon. Et je lui ai proposé ce que j'appelle une séance d'exorcisme, c'est-à-dire des choses que l'on fait assez facilement dans les séances d'exorcisme, que ce soit la chrétienté ou que ce soit les exorcismes qu'on peut retrouver au Maroc par exemple, ou dans d'autres cultures traditionnelles qui peuvent utiliser ça. C'est-à-dire, je lui ai proposé un exercice d'hyperventilation jusqu'à ce qu'elle commence à avoir la tête qui tournait, en ayant des suggestions extrêmement directes, en saturant tout son environnement visuel, auditif, c'est-à-dire de lui faire perdre un maximum de repères, et à un moment donné, de lui demander de se servir de sa respiration pour expulser ce qu'elle avait à expulser de l'intérieur d'elle, et je parlais de toute sa souffrance. Et donc on a fait comme ça cette séance-là durant 20-25 minutes à peu près, et jusqu'au moment où ensuite, entre guillemets, le démon est sorti de son corps. Alors évidemment, je ne suis pas exorciste, donc à aucun moment je n'ai dit à la patiente si je croyais ou pas ce qui était en train d'arriver. Je n'ai jamais attesté ou pas ce qui était en train de se passer. Les suggestions étaient évidemment extrêmement floues. Et en même temps, la mise en scène était une mise en scène qui répondait à ses croyances. Donc il peut y avoir des éléments de surprise. Probablement que ce phénomène de croyance qui apparaissait sans aucun terrain, parce que généralement, il y a toujours un terrain. Il y a un terrain culturel, il peut y avoir un terrain d'histoire, il peut y avoir beaucoup de choses, mais là, il n'y avait aucun terrain, m'a du coup obligé à décentrer ma pratique et effectivement utiliser l'hypnose dans un cadre qui était peu habituel. En dehors de ça, notamment en pratiquant l'hypnose, mais pas que, c'est également vrai dans une pratique, on va dire, plus courante en psychologie, on s'attend toujours à être surpris par les patients. C'est-à-dire que je crois qu'il faut arrêter sa pratique quand justement on n'arrive plus à être surpris par l'autre. C'est aussi une curiosité de l'autre et de ce qu'il pourrait dire qui, à un moment donné, nous permet d'avancer. Il faut arriver quelque part vierge de tout présupposé pour pouvoir pratiquer. Donc, en dehors de ces quelques événements-là particuliers, qui pour le coup ont obligé vraiment à ce que je me réadapte, c'est vrai que la surprise, elle est toujours un petit peu là, dans le sens où les patients nous plongent toujours dans l'inédit. Ce n'est pas parce qu'ils ont des symptômes qu'on a entendus 100 fois. Le propre de la souffrance, c'est qu'on a toujours on a toujours l'impression de souffrir seul. Hein. C'est-à-dire que quand on souffre, on a toujours l'impression qu'on souffre comme personne n'a jamais souffert. Donc les patients ont l'impression de souffrir comme jamais personne n'a souffert et que personne ne peut comprendre. Nous, ce sont des récits qu'on a entendus 10, 50, 100 fois. Et pourtant, au-delà du récit, c'est toujours une histoire de vie, une certaine façon de se présenter, qui fait qu'on est toujours confronté à l'inédit. Donc la surprise fait un peu partie du quotidien, en tout cas.